Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'évoquer le syndrome de Myhre et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Pauline Chaste. Professeur Chaste, bonjour.
Bonjour.
Professeur Chaste, vous êtes pédopsychiatre et chef de service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Vous avez également beaucoup travaillé sur les facteurs génétiques prédisposant aux troubles du spectre autistique chez l'enfant. Alors tout d'abord, professeur Chaste, quels sont les symptômes d'ordre neuropsychiatrique qui sont rencontrés chez les jeunes patients touchés par le syndrome de Myhre ?
Alors, ils ont été décrits vraiment très partiellement. Puisque, comme vous le savez, c'est un syndrome extrêmement rare et donc il y a aujourd'hui peu de littérature à ce sujet, mais vraisemblablement, les troubles psychiatriques qui peuvent se présenter sont des particularités du développement, notamment du développement social, qui peuvent s'apparenter à des troubles du spectre autistique, et à l'adolescence et à l'âge adulte, des cas de schizophrénie ont été décrits.
Et est-ce que ça veut dire que tous les jeunes patients qui sont touchés par un syndrome de Myhre vont développer un trouble neuropsychiatrique ?
Non, ça ne veut pas dire que tous vont développer un trouble neuropsychiatrique. Ça veut dire simplement que le fait d'avoir un syndrome de Myhre et d'avoir une mutation de le gène SMAD4, qui est le plus souvent le gène muté dans le syndrome de Myhre, favorise l'apparition de troubles neuropsychiatriques et donc augmente le risque chez les enfants qui ont ce trouble. Néanmoins, un certain nombre d'enfants vont se porter tout à fait bien sur le plan psychologique et pédopsychiatrique.
Et sans prise en charge appropriée, comment évolue la maladie du point de vue des symptômes neuropsychiatriques quand ils sont présents ?
Alors, on ne peut pas décrire une évolution typique, vraisemblablement que les particularités qui sont présentes chez les enfants sont assez variables d'un enfant à l'autre et l'évolution va être tout aussi variable. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très important de pouvoir repérer très précocement des particularités sur le plan du fonctionnement affectif avec, par exemple, des difficultés d'adaptation dans la relation sociale, un manque d'attention à ce que les autres peuvent proposer, par exemple, un manque d'expression des émotions ou des comportements qui laissent penser que l'intégration dans le groupe avec d'autres enfants est compliquée. Pourquoi c'est important de repérer ces particularités ? C'est parce que le développement de l'enfant évolue très rapidement de la naissance à l'âge à peu près de l'école primaire. Et on peut aider considérablement les enfants à s'adapter par des prises en charge psychologiques, orthophoniques et parfois aussi en psychomotricité. On peut dire aussi qu'à l'adolescence, l'évolution va être vraisemblablement fonction de la rapidité avec laquelle on repère une évolution défavorable avec l'apparition de symptômes psychotiques. On sait que dans la schizophrénie, l'évolution est d'autant plus favorable que la schizophrénie est diagnostiquée rapidement et que les soins adéquats sont mis en place rapidement.
Alors justement, pour ces jeunes patients, professeur Chaste, quels sont les enjeux de la prise en charge neuropsychiatrique ?
Alors, comme je le disais, pour les enfants les plus jeunes, l'enjeu est vraiment celui de la prise en charge précoce. Pourquoi ? Parce que chez le très jeune enfant, le cerveau est encore très plastique. C'est-à-dire que l'intervention précoce et les prises en charge ont un impact sur le développement cérébral en lui-même. Et l'enjeu essentiel est de permettre aux enfants de pouvoir développer un maximum de compétences qui ne se développent pas spontanément. Par exemple, un enjeu très important va être d'intervenir pour soutenir le développement du langage par un suivi orthophonique si jamais il y a un retard de langage. Un autre enjeu peut être d'aider l'enfant à mieux appréhender la relation avec autrui par le biais d'une prise en charge en psychothérapie. À l'adolescence, l'enjeu, il est vraiment d'éviter les complications liées à l'évolution des troubles. Quand on repère à l'adolescence des symptômes psychotiques légers, avec par exemple des hallucinations isolées ou un léger sentiment de persécution, c'est un enjeu très important de pouvoir le repérer pour aider les adolescents à mieux s'adapter sur le plan social, à diminuer le niveau de stress pour éviter l'évolution vers une schizophrénie à proprement parler.
Et au final, quelle prise en charge proposer ?
Alors là encore, je pense qu'il n'y a pas de prise en charge universelle. Je pense qu'il est très important que les pédiatres qui s'occupent des enfants qui ont un syndrome de Myhre puissent contribuer au repérage des particularités développementales, que ce soit sur le plan du langage, sur le plan psychomoteur ou sur le plan social, et que les enfants puissent être adressés idéalement à des structures qui proposent plusieurs suivis, des structures qui proposent des suivis pluridisciplinaires. Par exemple, un centre médico-psychologique ou un centre médico-psychopédagogique. À l'adolescence, il est vraisemblablement important, au moindre doute, qu'un adolescent qui présente un syndrome de Myhre puisse rencontrer au moins une fois un pédopsychiatre afin qu'il évalue le risque d'évolution vers une schizophrénie.
Eh bien, merci mille fois, professeur Chaste, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le syndrome de Myhre. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.